Amélie Benoît, bonjour.
Oui, bonjour.
Psychologue clinicienne au CHU Sainte-Justine est là pour parler avec nous de comment parler de maladie avec son enfant quand cette maladie concerne justement notre enfant. Et ça arrive un petit peu comme l'illustrait bien Sophie, souvent par une question de l'enfant, j'imagine, Amélie.
Oui, tout à fait. En fait, il n'y a pas de scénario typique pour chaque famille, pour chaque enfant. Ça peut se présenter de différentes façons. Effectivement, des fois, ça peut venir d'une question de l'enfant ou d'une question de l'entourage ou des visites chez le médecin qui, par la force des choses, à un moment donné, on vient qu'à avoir besoin d'en parler. Et en fait, c'est ce qu'on encourage de faire de façon générale, c'est de ne pas cacher, de ne pas éviter d'y aller, en fait, et d'expliquer au mieux nos connaissances, et toujours en étant adapté à l'âge de l'enfant, à ses capacités, à sa compréhension, mais de lui donner certaines explications pour faire un sens, en fait, de qu'est-ce qu'il vit, de ses symptômes, de ses visites chez le médecin, des médicaments qu'il doit prendre. Donc, pour l'aider à mieux se comprendre, en fait.
Oui. Ce qui est important de rappeler, Amélie, c'est que c'est souvent le parent qui est le mieux placé pour le faire.
Oui, effectivement, c'est la personne bon qui partage la vie quotidienne avec les enfants. Et oui, ça va être le parent qui va souvent recevoir les questions ou les irritations de l'enfant au sujet de sa maladie. Alors oui, ça risque fort probablement d'être le parent le premier interlocuteur là à discuter de la maladie.
Je ris, Amélie, parce que Sophie rit des irritations. Il y en a de la part d'Ariel, j'imagine.
Oui, il y a eu des périodes où elle trouvait ça difficile.
Oui. Justement, quand l'enfant trouve difficile, parce qu'on parle, notamment dans le cas de la famille de Sophie, mais dans le cas d'enfants malades, de suivis médicaux qui sont assez étroits, aux 6 mois, parfois davantage. L'enfant peut être irrité, oui, ne pas vouloir aller à ces rendez-vous-là. On accueille ça comment, cette colère ou cette irritation-là, Amélie?
Oui, donc je pense premièrement, il faut se dire qu'elle est somme toute normale et même saine en fait, là, parce qu'on s'entend que bon, la maladie, c'est un phénomène qui arrive, qui tombe sur une famille, sur un enfant, c'est injuste, on l'a pas souhaité, on doit vivre avec, composer avec. Donc, pour un enfant, de venir à des visites répétées à l'hôpital, de prendre des médications, d'avoir des restrictions dans sa vie courante en raison de sa maladie, c'est quelque chose d'extrêmement frustrant et qui n'a pas de sens, là. Oui. Et donc, à un moment donné, ça se peut qu'il soit fâché, et même on s'attend à ça, là, et qu'il ne veulent pas participer. C'est une façon pour lui de reprendre un peu de contrôle sur une situation où il n'y en a pas beaucoup, des fois. Alors, je pense qu'il faut être prêt à discuter de ça, ne pas nécessairement réprimander l'enfant, mais quand même avancer à lui faire comprendre la nécessité d'aller voir son médecin et peut-être, bon, tout dépendant de l'âge de l'enfant, mais essayer de, bon, lui favoriser ses visites à l'hôpital, que ça soit le plus agréable possible, qu'il y ait peut-être une petite sortie après ou donc pour mettre ça un peu plus positif, puis... Ouais. Tranquillement, au fur et à mesure où la jeune vieillit, ben on peut essayer plus de lui faire comprendre les raisons.
Sophie, on va le dire, là, vous riez depuis tantôt, mais en silence. Qu'est-ce qui se passe, là?
En fait, je souris parce qu'au dernier IRM qu'Ariel a eu, après, on est allé manger parce qu'évidemment, il fallait qu'elle soit à jeun.
Ouais.
Et on est allé manger, elle a mangé une gaufre gigantesque avec des fraises et de la crème fouettée, du chocolat, et c'était sa récompense, entre guillemets, mais elle avait aussi très faim, là, mais oui, effectivement, on fait toujours souvent une petite sortie spéciale où on essaie.
Oui, ça peut être un moment pour l'enfant d'avoir un temps particulier avec un de ses parents, un petit moment de pause, là, donc de pas juste associer ça sur la visite à l'hôpital, les aspects plus désagréables, mais aussi du temps qu'on peut passer avec son parent.
Pour un enfant qui s'exprime moins, qui parle moins de ses craintes, de sa colère, Amélie, on l'amène comment à communiquer, à sortir ça un peu de lui, là?
Oui. Donc, c'est vrai que les enfants vont, bon, étant donné leur tempérament, leur personnalité différente, vont réagir de façon différente. Il y a des enfants qui en parlent beaucoup, spontanément. spontanément dans leur entourage, à leurs enseignants, à leur famille, à leurs amis. D'autres vont plutôt éviter ou même être fâchés des fois quand les parents veulent en parler.
Ouais.
Ça aussi, faut quand même respecter ça, mais je pense que progressivement, il faut que le parent ou les gens de l'entourage, les professionnels soient disponibles et quand même fournissent certaines explications, mais tout en acceptant que l'enfant veut peut-être pas en parler plus à l'heure actuelle, mais se montrer disponible et des fois peut-être utiliser d'autres moyens d'en parler, peut-être des livres ou des émissions qui tournent autour de ce thème-là. Des fois, ça peut, en passant par quelqu'un d'autre, des fois ouvrir un peu la possibilité d'échanger sur le sujet. Mais effectivement, il faut suivre le rythme de l'enfant aussi.
Oui. Ariel, elle a 11 ans, c'est un âge un peu charnière où de plus en plus l'enfant prend de l'autonomie, comprend ce qui arrive. Est-ce qu'on on l'encourage à en parler par lui-même, par exemple devant un enseignant, devant un proche de la famille, un voisin, ou on prend le relais, c'est nous qui donne les explications?
En fait, là, je pense qu'il ne faut pas non plus forcer l'enfant à en parler, un enfant qui ne voudrait pas en parler. On peut s'entendre avec lui en lui disant, écoute, ton enseignant doit être au courant, c'est important pour qu'il te comprenne bien et qu'il s'adapte à toi. Donc, toujours lui donner des explications pour donner du sens. Et si l'enfant est à l'aise de le faire, ben pourquoi pas le laisser aller? C'est effectivement une certaine prise d'autonomie et de sentir, bon, ça fait partie de moi, ça fait partie de mon identité, je suis capable d'en parler, mais chaque enfant peut avoir son rythme là-dedans.
Oui.
Je sais même, des fois, il y a des enfants qui vont proposer ou avec le support de l'enseignant de faire des petites présentations en classe sur leurs conditions médicales pour expliquer aux autres d'emblée, là, pour prendre les questions, puis dans le fond, de dédramatiser le contexte.
Et ça peut être une
bonne occasion.
Tout à fait, puis c'est une façon aussi, vous le disiez tout à l'heure, Amélie Benoît, d'avoir un certain contrôle sur ce que nous arrive. C'est moi qui en parle, j'utilise les mots que je veux, je le fais de la façon dont je le veux, et c'est une façon de responsabiliser aussi l'enfant à sa maladie. Bon, là, avant que l'on se quitte, je veux qu'on parle de culpabilité. On ne dira pas faire la maudite culpabilité, ça arrive souvent, ça, quand on est parent. Sophie, ça vous est arrivé, je pense, un petit peu dans ces explications ou ces discussions que vous avez eues avec Ariel, la culpabilité?
Oui, je pense qu'en tant que parent ou en tant que maman, souvent, on sent une culpabilité de pas être assez là, de pas en faire assez, de vouloir... moi, je suis très, très au-devant d'elle, peut-être trop, des fois. Je veux prévenir des choses, mais il y a une culpabilité parce que ça reste... Ça reste des gènes, ça reste...
C'est sûrement pas la première fois qu'on vous pose la question, Amélie. Qu'est-ce qu'on dit à des parents qui se sentent coupables?
Ben, je pense que, comme Mme Boisvert l'illustre, c'est assez fréquent. Bon, pour bien des parents, là, dans la vie de parents en général, mais particulièrement quand l'enfant a une maladie, qu'il y a une composante génétique ou non, c'est sûr qu'en tant que parent, on veut faire le maximum pour notre enfant. Donc, je pense que ça, c'est bien normal, cette culpabilité-là. Il faut un peu l'accepter qu'elle fait partie du processus et qu'elle peut fluctuer dans le temps aussi selon les situations de vie là, et l'évolution des symptômes. Alors, je pense qu'il faut être honnête avec soi-même, s'observer, se voir aller, puis pas hésiter à aller chercher du support pour nous-mêmes, que ça soit par l'entourage, les groupes de parents ou même un professionnel, là, psychologue au besoin. Faut vraiment pas hésiter parce que c'est lourd là, pour les parents de porter leur vécu par rapport à la maladie de leur enfant, puis supporter leur enfant aussi dans tout ça. Alors, faut qu'ils puissent s'aménager aussi puis avoir de l'espace pour eux là, là-dedans. Oui.
En parler et en terminant, en parler à l'enfant aussi. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à exprimer nos peurs ou notre douleur, là, notre souffrance à notre enfant?
Bien, je pense que dans ça, oui, effectivement, mais avec dosage, donc de si on se sent très submergé par toutes sortes d'émotions, d'inquiétudes, je pense qu'il vaut mieux avant tout prendre soin de ça pour soi-même, pour être en mesure d'en parler après plus librement avec son enfant. Mais je pense que des fois, quand il y a des situations un peu plus intenses, que notre enfant est témoin, mais de mettre des mots là-dessus, de lui expliquer sans donner tous les détails, mais ça peut être correct aussi là, de lui expliquer que, bon, maman et papa hein, ont été stressés pendant le rendez-vous chez le médecin, il y avait beaucoup de questions, hein, tu as vu ça. Donc, je donne un exemple comme ça, là, mais de mettre des mots là, sur ce qui s'est passé, oui, mais en dosant, effectivement. Là.
Et ça encourage l'enfant, éventuellement, à lui aussi s'ouvrir et à trouver les mots pour exprimer que ce soit sa colère ou sa tristesse. Amélie Benoît, ça a été vraiment un plaisir de vous parler. Vous êtes psychologue clinicienne au CHU Sainte-Justine. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Au revoir.